des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans cette émission Parcours. Il est né en 1930, à 9 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, grand reporter pour la Croix en Algérie pendant les années de conflit. Ça le marque à jamais et lui donne peut-être un certain souffle d'humanité. De journaliste, il devient grand homme de presse. Il fait partie de l'équipe fondatrice du célèbre magazine Le Point, dont il deviendra PDG. Il est également président du conseil de surveillance de l'Express en 1997. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres étapes, d'aléas en succès. Il tourbillonne dans le vertige de l'actualité et du monde. Certes, pour faire le point, mais aussi pour écrire. En effet, plus d'une vingtaine d'ouvrages, même beaucoup plus, sur des thèmes touchant à la religion, à des portraits de religieuses. Ça peut nous intriguer, le Dieu et le diable, mais nous allons en parler dans quelques instants avec vous. Bonjour Jacques Duquesne.
Bonjour.
Dieu et le diable vous intriguent, surtout le diable, c'est le titre de votre dernier livre, paru chez Plomb. Et le bandeau rouge d'annonce de l'éditeur attitré « Existe-t-il ? » Est-ce que c'était fait exprès ?
Enfin, vous savez, les éditeurs parfois prennent des latitudes que les auteurs ne soupçonnent guère au départ. Moi, je voulais faire l'histoire du diable.
Ils veulent vendre à tout prix, c'est ça ?
Ah, bien sûr.
Bon, évidemment.
L'auteur n'est pas hostile à l'idée que son livre soit lu, qu'il trouve des lecteurs. Hein, soyons clairs là-dessus. Bon. Cela dit, c'est vrai que si j'ai écrit Le Diable, après bien des livres, comme vous l'avez dit, c'est parce que je suis obsédé depuis ma jeunesse par le problème du mal. Voilà. Comment dire, c'est une obsession qui a commencé, vous l'avez dit, j'avais 9 ans quand la guerre a éclaté, la deuxième guerre mondiale, pas la première, sinon je ne serais pas là à votre micro. J'avais 9 ans et j'étais dans une ville qui s'appelle Dunkerque, ce qui veut dire qu'à 10 ans, en mai et début juin 1940, j'ai assisté à la première grande bataille sur le front occidental. C'était l'évacuation des troupes anglaises et un peu françaises de Dunkerque. Et donc, c'était pour un garçon de... Donc j'avais 10 ans à ce moment-là, au moment de la bataille, là. C'est terriblement impressionnant parce que bon, il m'est arrivé de courir dans les rues en zigzag parce que les Allemands étaient au bout de la rue et tiraient, bien sûr, sur tout ce qui bougeait. Il m'est arrivé la nuit, une nuit, je me souviendrai toujours, on était très nombreux dans une cave de brasserie, une fabrique de bière. Bon, on était très nombreux là-dedans et un problème auquel on pense jamais quand on pense à ces situations, c'est le problème des besoins personnels. Et je voyais en face de moi l'église qui brûlait. Je savais que dans cette église, des gens qui s'étaient réfugiés là avec un bébé qui était mort en cours de route parce qu'il avait été atteint par une balle, avaient déposé le bébé. Et donc, je me disais, ce bébé brûle dans cette église. Bon, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Je revois encore en vous parlant, je revois la scène de l'église qui brûle, et puis derrière, les murs de la ville qui s'effondrent, etc., puisque les Allemands attaquaient surtout par bombardement aérien et artillerie, quand même, là où on était dans les tout derniers jours. Et donc là, on se pose des questions, quand même, sur le mal du monde, hein. Ensuite, bon, la guerre d'Algérie, vous l'avez dit. Bon, la guerre d'Algérie était une sale guerre pour tout le monde. Je veux dire qu'il n'y a pas les bons et les mauvais. C'est pas si simple que ça. Tout le monde s'y met dans ces cas-là. Et puis même, je me souviens aussi que, pour revenir à Dunkerque en 1940, quelquefois, quand les bombardements arrêtaient, les gens allaient piller, des braves gens, hein, des gens tout à fait honnêtes, normaux, etc., allaient piller les magasins dont les murs s'étaient effondrés. De la même façon que j'ai vu en Algérie, à la fois les uns et les autres, qui étaient aussi de braves gens, des gens paisibles, de bons pères de famille, qui étaient des tortionnaires, bon, oui. Et donc, on se pose beaucoup de questions. Après, bon, un peu le tourbillon de la vie professionnelle, comme vous l'avez dit, m'a un peu retiré de ses préoccupations, si vous voulez, parce que, bon, il fallait que je fasse marcher les journaux où j'étais et que je contribue à ça, bon.
Mais de quelle manière, d'avoir vécu des moments aussi forts, on n'a même pas idée de ce que vous avez pu vivre, de quelle manière ça influe sur votre parcours ? À quel degré ? Est-ce que vous le gardez quelque part au fond de vous ?
Ah, toujours. Bon, à cette époque où j'étais vraiment dans... Quand j'étais PDG du Point, par exemple, bon, bah, quand je me réveillais la nuit, je ne pensais pas obligatoirement à ça, parce que je me disais comment faire marcher tel secteur du Point qui ne marche pas bien, etc. Bon, là, vous avez des soucis de direction, de personnel aussi, en disant, bon, il y a tel garçon ou telle fille qu'il faudrait peut-être écarter, et ça vous pose des problèmes. Bon, donc, c'est vrai que là, mais ensuite, quand je me suis un peu retiré de cette vie active, là, totalement active, cette préoccupation du mal m'est revenue et toute information que j'entends sur le terrorisme ou des batailles, ou etc., me ramène toujours à ce genre de questions. Pourquoi le mal existe-t-il à ce point ? Et il y a deux catégories de mots M-A-U-X. C'est le mal que fait l'homme, que l'homme, tout homme est capable de faire le mal. Alors on peut dire, c'est la liberté de l'homme de faire le bien, de faire le mal, ou de faire des choses mixtes. Bon, mais il y a aussi le mal qui naît de catastrophes comme le tsunami ou Haïti récemment, etc. Les tremblements de terre et tout ça, où on se dit, attention, si on est croyant, ce qui est mon cas, on se pose une équation que le philosophe Paul Ricoeur posait en ces termes. Si Dieu est l'amour et s'il est tout puissant, pourquoi le mal existe-t-il ? Il y a le mal qui est la faute des hommes, parce que Dieu a voulu les hommes libres. Ça, c'est la réponse, c'est relativement simple, là. Il a voulu laisser les hommes libres. Parce que s'il est un Dieu d'amour, l'amour suppose la liberté des deux parties en cause, n'est-ce pas, d'un côté et de l'autre. Donc, il fallait que les hommes soient libres, y compris de refuser Dieu. Et je ne sais pas si c'est Ricoeur, il y a un théologien aussi qui disait « Dieu a poussé l'amour jusqu'à accepter l'impuissance, presque. » Voilà. Accepter l'impuissance pour lui en face de ce que sommes capables de faire. Reste le problème quand même des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Alors là, je suis assez théardien, si vous voulez. Je pense, je suis pas le seul, heureusement. Moi, j'ai rien inventé. Je suis un transmetteur, un journaliste, c'est un transmetteur, c'est un vulgarisateur. C'est quelqu'un qui apporte en langage simple et clair à un public plus large une information qui n'est pas donnée à ce public ou qui est donnée dans un langage compliqué des spécialistes. C'est pourquoi les universitaires nous aiment pas beaucoup en général. Ils aiment pas beaucoup les journalistes parce que ils aiment bien rester entre eux. L'autre jour, j'en voyais un, c'est plutôt une d'ailleurs, qui a fait un livre un peu compliqué. Je lui disais, mais enfin, c'est bardé de notes en bas, etc. Ça va écarter un large public qui aurait intérêt à lire votre livre. Et elle me dit, oui, mais si je ne fais pas ça, je ne serai pas reconnu par les autres universitaires. Donc je suis obligé, pour être reconnu, d'être comme ça. Alors nous, les journalistes, on est ailleurs. On peut traduire leur langage. Ils n'aiment pas ça d'ailleurs, en général, mais enfin, peu importe. On peut traduire leur langage et le mettre à la portée d'un plus grand nombre. C'est de la vulgarisation. Moi, j'ai rien contre la vulgarisation, parce que je trouve qu'au contraire, c'est une tâche nécessaire et utile. Et donc, le problème du mal naturel, si vous voulez, des catastrophes naturelles, simplement parce que la création, c'est une histoire. C'est pas le récit de la Bible. D'ailleurs, il y a deux récits de la Genèse. Sur la création du monde, c'est évidemment des poésies, c'est des mythes, c'est de la mythologie. C'est pas l'histoire au sens où nous la concevons. Ça a été écrit il y a des siècles par des gens qui s'adressaient pas à nous d'abord, pour qui les conceptions, les manières de penser que nous avons, les références, les concepts qui nous entraînent, etc., étaient inimaginables presque. Bon, donc... Laissons de côté, moi je suis toujours surpris quand je vois qu'aux États-Unis, par exemple, il y a ce qu'on appelle les créationnistes, qui en gros croient que Adam et Ève et tout cela. Bon, laissons ça de côté. Non, le problème, c'est que la création, c'est pas comme ça un caprice divin, comme ça tout d'un coup, je crée le monde, et puis voilà, le monde est fini, tout va bien. D'ailleurs, même dans la Genèse, Dieu dit à Adam et Ève, justement, vous allez soumettre la terre, etc. C'est-à-dire, vous allez l'améliorer, etc. Et donc, la création, c'est une histoire qui se continue entre Dieu et les hommes. Et puis, en gros, bah, les hommes ont quand même fait progresser la création, la façon dont nous vivons, les instruments dont nous disposons, etc. Et même dont nous pouvons prévoir, pas toujours bien, les catastrophes naturelles, etc., montre qu'on a quand même, au long des millénaires et des siècles, amélioré la terre sur laquelle nous vivons. Donc, on peut comprendre cela. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que les églises n'expliquent pas ça au peuple, aux gens. Moi, je constate toujours que chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, j'entends des gens, par ailleurs, qui ont du bon sens, qui sont relativement informés, etc. S'il y avait un dieu, cela ne se produirait pas. Ou bien même s'il y a un enfant qui a un cancer, un bébé de 6 mois qui a un cancer, c'est impossible, s'il y avait un dieu, ça n'existerait pas. Et je vois que les autorités religieuses répondent rarement à ce problème fondamental, ça détourne les gens. Si elles voulaient que les gens aient la foi, gardent la foi, elles devraient quand même se battre un peu là-dessus. Écoutez, quand il y a eu le tsunami, il y a un seul évêque français qui a un peu abordé ce problème, un seul. Bon, c'est un peu faible. Quand il y a eu Haïti, il y a un seul aussi, c'est elle-même d'ailleurs, qui a abordé cette question. Je trouve ça un peu faible et c'est vrai aussi du Vatican. On élabore de savantes thèses sur un certain nombre de sujets, etc. Mais on ne parle pas au peuple le langage qu'il entend. Jean-Paul II parlait un peu clairement. Mais bon, le pape actuel, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas les successeurs non plus.
Les épisodes dont nous parlions en début de cette émission, c'est-à-dire les épisodes difficiles de votre début de vie, ont-ils aiguisé votre sens de la moralité ? Je pense au journalisme.
C'est difficile de dire je suis un homme moral quand même, y compris à vous.
On peut au moins en avoir envie.
Oui, j'essaie, si vous voulez. J'ai plusieurs règles comme ça. Je n'ai jamais demandé quelque chose à quelqu'un, c'est pourquoi je n'ai jamais été candidat à l'Académie. Quelques personnes m'y ont poussé, j'ai jamais voulu, mais je pense que j'avais pas la taille suffisante. Bon. J'ai, deuxièmement, dans la presse, vous savez qu'il y a deux catégories. Dans le monde politique et la presse, les journalistes qui sont dans le monde politique, souvent, ils acquièrent une certaine intimité avec le personnel politique. C'est-à-dire, on passe ses vacances ensemble, par exemple, 8 jours ou 15 jours. Bon, qu'on déjeune ensemble, ça, j'admets très bien, je l'ai fait moi-même, déjeuner avec du personnel politique, parce qu'il faut bien qu'on se parle un peu librement, etc. Mais il y a des familiarités qui me paraissent pas nécessaires et même dangereuses. Et donc, je me suis toujours tenu à l'écart, ce qui fait que finalement, je suis peu, bien que j'ai occupé des fonctions relativement importantes, je suis peu connu de ce monde-là.
Mais sans ces familiarités, aujourd'hui, on a du mal à trouver l'information. Comment faire ? Est-ce qu'on peut garder son sens moral, justement ?
Oui, je crois, parce que là, ils se méfient, ces braves gens, là, dans ce cas-là. Il y a des secteurs aussi auxquels on ne pense jamais. Par exemple, la presse féminine. Moi, je suis très frappé de voir que c'est un secteur où dire la corruption, c'est un bien grand mot, mais enfin, écoutez. Quand on lance un parfum et qu'on invite pour cela 120 dames ou demoiselles, quelques messieurs peut-être, à aller faire un voyage en Inde, etc. Comment voulez-vous que ces dames, ces demoiselles ou ces messieurs puissent dire ce parfum, bon, il n'apporte pas grand-chose. Quand on prête des robes, ou qu'on les donne aux filles qui font la mode dans les journaux, comment voulez-vous qu'après elles soient libres à l'égard du monsieur ou de la dame qui dirige ces maisons, etc. C'est un des secteurs où, avec peut-être le secteur de la gastronomie, mais surtout, c'est plus le secteur du luxe féminin, où il y a une confusion là qui est...
Difficile de ne pas se pervertir.
Ouais, il est difficile d'échapper à cela. Je vois que maintenant, on invite, par exemple, au dernier défilé, là. D'abord, dans les journaux féminins, on parle de Fashion Week.
La Fashion Week.
Oui, parce que dans les journaux féminins, on parle anglais de plus en plus, et du mauvais anglais d'ailleurs. Bon, dress, machin, etc. Et puis, on ne sait pas dire nous. On a aimé, on a apprécié, etc. On ne sait pas dire nous. Ils ont oublié ce petit sujet-là, nous. Nous avons apprécié, etc. Ils ne savent plus. Enfin bon, laissons les journaux féminins. Mais je dois dire, c'est un des secteurs où la moralité est la plus difficile à respecter. Ça doit être très difficile de résister, n'est-ce pas ? Et je vois que dans les derniers défilés, on a invité à assister à ces défilés deux ou trois dames qui avaient des blogs et qui, avec ces blogs, comme ça, toutes seules, elles ne sont pas journalistes dans un organe de presse quelconque, elles ont acquis une certaine notoriété, etc.
C'est un point intéressant que nous allons aborder en fin d'émission sur la question des nouveaux médias.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise ? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Academy, une émission libre écoute et libre téléchargement.
Revenons à vos rencontres, notamment en Algérie. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette époque, de ce grand moment ? Vous me disiez que c'était un grand moment de votre vie, vous avez fait des rencontres importantes. Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Il y en a une qui m'a marqué beaucoup, c'était en 1957, pendant la bataille d'Alger. Nous, Français, avons gagné militairement, mais que nous avons perdu politiquement, me semble-t-il, parce qu'on adressait toute une population, pas toute une population, il faut toujours se méfier, une partie de la population contre nous. Et c'est vrai qu'il y avait trois guerres d'Algérie, à mon sens. Il y avait une guerre franco-FLN au départ, une guerre algéro-algérienne, parce que le FLN, c'était une minorité de nationalistes qui se sont imposés par la violence parfois, mais aussi à cause de nos propres bêtises au peuple algérien. Et puis, il y avait une guerre franco-française. Moi, j'ai vu en 1962 des chars devant l'Assemblée nationale pour défendre l'Assemblée nationale. On a oublié ça maintenant, mais quand même, c'était le signe qu'on était au bord d'une sorte de guerre civile.
Et vous vous retrouvez donc en Algérie, dans des coins reculés, vous menez votre enquête, et alors ça vous mène à quoi tout ça ?
Ça me mène à ce nouveau type de guerre, parce que par rapport à celle que j'avais connue en 1940, puis les années suivantes à Dunkerque, etc. Ce nouveau type de guerre qui est la guerre avec du terrorisme, avec de la recherche de renseignements et donc de la torture. C'est vraiment un nouveau type de guerre. Je me souviens que je voyais des gens du FLN, par exemple, je leur disais, mais enfin, ce que vous faites, c'est scandaleux. Quand vous mettez des bombes à Alger, par exemple, un arrêt d'autobus au pied d'un pylône ou je ne sais quoi, c'est scandaleux. Et eux me disaient, mais attention aux avions, là, nous, on n'a pas d'avions. Ils jettent des bombes dans la campagne, là, sur les villages. Vous croyez que c'est mieux ? Je vous jure, je n'étais pas tout à fait à l'aise. Je me disais, zut. Il y a là un vrai problème. Et donc, la violence est partout. Mais dans les grandes rencontres que j'ai eues, j'ai eu en 1947 le général Massu, donc pendant la bataille d'Alger. Et c'était à son PC qui était à la Bouzaria, comme ça, la Bouzaria, c'est en haut d'Alger. On montait, on était venu me chercher en jeep, et on montait en jeep là jusqu'à la Bouzaria. Il était 7h30 le matin, quelque chose comme ça. J'avais dû promettre de ne pas dire que je l'avais rencontré. Alors j'avais promis de ne pas dire que je l'avais rencontré. Et il me reçoit donc, il avait un bureau très long, comme ça, avec une baie devant, d'où on voyait toute la ville d'Alger, toute la baie d'Alger. C'est très beau, hein, très beau. Très beau. Et sur son grand bureau, il y avait un gros bouquin qui ressemblait à une Bible ou à un livre de messe, comme on en faisait à l'époque encore. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis à la croix qu'il a mis quelque ce gros bouquin-là ? J'en sais rien. Mais enfin, le bureau était strictement vide. Et sur la droite, il y avait un rayonnage où il y avait des albums de photos. Et il m'amène d'abord vers les albums de photos parce qu'auparavant, sa division, la 10e division de parachutistes, avait participé à l'opération Suez, mais ça c'est une autre histoire, et auparavant elle avait été aussi en Kabylie, où ils avaient constaté que cette région était sous-administrée, que l'œuvre civilisatrice de la France, comme on disait, était un peu surestimée vu de France, parce qu'il n'y avait pas d'école là-bas, on ne pouvait pas aller à l'école, tout ça. Donc les parachutistes de Massu ont fait l'école là, à Négos, voilà. Et donc, il avait ses albums photos avec des photos de gosses rieurs ou sympathiques et tout ça. Et il me disait, regardez comme ils sont bien, ces gosses, tout ça. Bon, très bien. Et après, on s'assoit comme ça, face à face, comme vous et moi maintenant. Et alors, je lui dis, bon, alors, parlons un peu de ce qui se passe, etc. Et parmi tous les sujets, bien sûr, on aborde le problème de la torture, parce que c'est le problème dominant au moment de la bataille d'Alger. On entendait parler de ça, vous savez, le soir, parfois. On en avait assez, vous disiez, mais si je pouvais, je ne sais pas où, oublier tout ce que je viens d'entendre, etc. Bon. Et puis, il fallait pratiquer le doute systématique, si vous voulez dire, mais est-ce que c'est vrai ce que vous me racontez ? Est-ce que c'est vrai ? Et alors là, Massu, à qui je dis, écoutez, moi j'ai vu hier des choses, et j'ai entendu des choses, et tout ça. Et je le vois encore me dire, il avait la bouche un peu de travers, comme ça. Je ne sais pas s'il l'avait en permanence, mais dans l'image que j'en ai retenue, là, et il avait de travers. Et pour moi, Massue, c'était... Vous savez, j'avais 14 ans à la libération de la France. C'était quand même un des hommes qui avait participé à la libération de Paris. Il est arrivé par l'ouest parisien, d'autres par le sud, avec Leclerc, etc. Mais enfin, il faisait partie de la division Leclerc. Et donc, moi, j'avais de l'admiration pour ce personnage et de la reconnaissance. Et alors, il m'a dit, en tordant un peu la bouche, « La torture, j'ai dit, la torture. Mais je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Comment voulez-vous que je fasse autrement ?» Bon. Et bon, on a discuté de ce problème pendant quelques minutes. Mais ce qui était terrible, c'est quand je revenais à Paris, où des gens me disaient oh, « Si vous parlez de la torture, vous êtes laissé intoxiquer par des chrétiens progressistes ou des libéraux, parce qu'on parlait... » Il y avait des libéraux à l'époque parmi les Européens, ceux qui étaient plutôt hostiles à la guerre et favorables, pas obligatoirement à l'indépendance de l'Algérie, mais à une solution un peu plus libérale, justement. Ou bien vous êtes laissé intoxiquer, vous avez écouté trop les arabes, etc., ce qu'ils racontent. Et je ne pouvais pas leur dire, vous parliez de morale tout à l'heure, je ne pouvais pas leur dire, écoutez, Massue lui-même me l'a dit. Voilà. C'était terrible, rude. Et après, alors, Massue, un jour, interrogé sur ce que j'avais écrit, interrogé par le Figaro, je crois, quelques années plus tard, en disant « Oh, mais Duquesne, il avait 27 ans à l'époque, bon, il s'est laissé avoir, etc. » Je me suis dit « Oh, le menteur, je ne me suis pas laissé avoir puisque c'est lui. » Et en plus, l'idée qu'à 27 ans, on ne puisse pas avoir quelques règles morales, ou etc., et qu'à 27 ans, on est bon pour faire la guerre, mais on n'a pas le droit de réfléchir sur cette guerre, qu'est-ce que ça veut dire, ça, mais après, bon... Il s'est repenti, Général Massue, bien plus tard, quand a surgi l'affaire Osarès, etc., et une nouvelle polémique sur la torture. Là, il s'est repenti, a dit qu'il regrettait et tout ça. Mais à l'époque, ça a été tel qu'à un moment, j'étais rentré à Paris. Une rumeur, alors je me méfie toujours de la rumeur, parce qu'avec la rumeur, on peut faire n'importe quoi. C'est le contraire de la vérité, la rumeur, par définition. C'est le contraire de mon métier de journaliste. Mais une rumeur disait dans Paris et à Alger, Massue a dit, si Duquesne revient, je le fais fusiller. Bon. Et bon, je vous dis, c'est une rumeur. Mais la direction de mon journal, j'étais donc à La Croix à l'époque, pendant quelques mois, n'a plus voulu que je retourne en Algérie en disant, on ne veut pas qu'il court de risque. Voilà.
Vous rentrez donc en France. Que se passe-t-il après La Croix ?
Après La Croix, eh bien, c'est très curieux, la vie d'un journaliste, parce qu'au fond, nous avons été plusieurs dans ce cas. Au début, ceux qui nous suivions l'Algérie, nous couvrions l'Algérie, comme on disait dans notre jargon. Et donc, on a été portés par la vague. Au début, on était dans la page 4 ou 5 des journaux. Et puis, à mesure que l'affaire d'Algérie devenait le problème français numéro 1, ben, on était à la une presque tous les jours. Et on signait à la une presque tous les
ça
jours.
Ça vous a fait un peu connaître.
Mais ça, honnêtement, il faut le dire, hein, c'est utile. C'est vrai pour une carrière, c'est utile. Sauf que la vague est tombée aussi vite.
Il est arrivé.
C'était extraordinaire, la vague vous porte et puis tout d'un coup, pas. Les Français ne voulaient plus entendre parler de cette guerre. C'était une sorte de cauchemar dont on ne voulait plus entendre parler, d'autant plus qu'il avait amené presque à cette guerre civile, qu'on avait failli tuer le président de la République, de Gaulle, bon, etc. C'était pas rien quand même. Et donc les Français, moi je suis retourné deux ou trois fois après l'indépendance en Algérie pour voir un peu comment ça se passait. Là, j'ai eu un des grands regrets de ma vie professionnelle, c'est que j'ai pas mesuré les massacres de Harki, l'importance qu'ils avaient pris. C'est-à-dire que, bon, l'Algérie était indépendante, mais beaucoup de mes sources d'informations, les gens que j'allais voir dans le bled, à Alger, à Sétif, à Constantine, que sais-je, etc., n'étaient plus là. Ou bien c'était des Européens qui étaient revenus en France, ou bien, bon, c'était des Algériens qui étaient plutôt des urbains, parce que les autres ne parlaient pas obligatoirement français. Alors, bon, ils avaient tendance à minimiser, si vous voulez, l'importance, parce qu'on les questionnait, bien sûr, sur ces sujets. Et ils avaient tendance à minimiser l'importance des massacres, etc. Ça, c'est... Si j'ai un regret dans ma vie professionnelle... C'est celui-là, c'est que ça. J'ai dit qu'il y en avait un certain nombre, mais l'importance exacte et la manière dont ça se faisait, ça, je ne suis pas très fier sur ce plan-là. Mais cela dit, pour revenir à votre question initiale, comme les Français ne s'intéressaient plus à l'Algérie, auparavant, tant que la guerre durait, je recevais un courrier des lecteurs très important. Après, quand je suis allé voir après l'indépendance, mes articles suscitaient une lettre, deux lettres, bon. Alors, dans les journaux, on se dit qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là. Moi, je connais par exemple un confrère qui était au Monde. Il y en avait deux qui allaient beaucoup en Algérie. L'un, Alain Jacob, a été ensuite envoyé spécial du Monde, comme ça en Asie, je ne sais plus où. Mais il y en a un second qui a disparu de la circulation, pratiquement, parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Et moi, comme on ne savait pas trop quoi en faire, j'ai traîné quelque temps là, je me suis occupé d'un magazine qui s'appelle Panorama, et puis j'ai commencé à écrire des livres, puisque j'avais un peu de temps, écrire même des romans, parce qu'il y a une dame qui m'a repéré, là, qui s'appelait Françoise Verny, qui a laissé un souvenir dans la vie des lettres françaises assez important. Et donc j'ai écrit des romans, et puis des livres qui n'étaient pas des romans, et des essais, donc. Et puis un jour, l'Express m'a fait signe.
Alors comment ça se passe
Je reçois un coup de fil en me disant, voilà, on aimerait bien vous voir. Ça se commence par un déjeuner. Et au cours de ce déjeuner, il m'explique, ces braves gens, que l'Express, sous la forme de News Magazine, qu'il a encore maintenant, n'existait à ce moment-là que depuis 2 ou 3 ans sous cette forme-là. Et donc, il voulait qu'il y ait un style commun à tout le journal, à tous les articles du journal. Il avait trouvé que j'avais le style Express. Enfin, spontanément, en lisant mes articles dans La Croix ou ailleurs, il avait trouvé que j'avais le style Express. Alors, j'ai commencé par y aller le soir, comme ça, parce que, bon, les journalistes donnaient leurs articles plutôt le soir que le matin, évidemment. Et pour y aller le soir, pour réécrire, j'ai réécrit des tas de gens très célèbres, hein, comme ça. Mais réécrire. Et ça m'intéressait, ça me passionnait, parce que, bon, d'une part, c'était sympathique. Au début, quand même, ils me regardaient d'un œil un peu torve, comme ça, en se disant pourquoi ils changent mes articles, celui-là, etc.
Vous aviez un peu le mauvais rôle, dans
un
sens.
Oui, j'avais un peu le mauvais rôle, oui. Après, bon, on s'arrangeait.
Ils sont habitués.
Oui, je suis plutôt gentil, et puis on s'arrangeait entre nous. Ils venaient me voir avant de donner à la rédaction en chef, parce qu'en général, le circuit, c'était rédaction en chef, puis hop, ça me redescendait sur moi. Bon.
Vous avez une sacrée importance, du coup.
Ah ouais. Et au début, j'y allais le soir, et puis à la fin, j'étais allé complètement par le système, par l'appareil. Et c'était assez passionnant, quand même, de réécrire comme ça, parce que là, vous cherchez des formes, hein, vous cherchez... Votre seul souci, c'est la forme littéraire, c'est pas le fond. Le fond était donné par le signataire de l'article, parce qu'il signait quand même, hein, bien entendu. Les faits cités étaient sous la responsabilité du signataire de l'article. Vous, votre rôle, dans ce cas-là, c'est pas de changer un mot par-ci, par-là, c'est vraiment éventuellement de balancer complètement, de bousculer, de mettre... Je m'excuse de dire ça, un canal académique, cul par-dessus tête, un article. Bon. Et ça, c'est assez passionnant d'avoir que le seul souci de la forme. C'est très intéressant.
Mais par la suite, vous revenez au journalisme où vous signez.
Ah oui, après oui. Mais là, quand je, par exemple, j'étais à un moment, quand je réécrivais comme ça, j'ai certaines époques un peu rudes, j'étais aidé par Jean-Noël Gurgan, qui est mort maintenant, qui a écrit, c'est triste, il est mort depuis pas mal d'années, et il avait écrit quelques bons romans. Et alors, on se lançait des défis comme ça, on se disait, tel paragraphe, tu mets, vous savez, à la Pérec, là, tu mets pas la lettre E, tu n'utilises pas la lettre E dans tel paragraphe. C'est quelqu'un qui irait fouiller les archives de l'Express à l'époque pour y trouver, on met pas la lettre E, ou bien on se lançait d'autres défis.
Vous lanciez des défis.
Tu mets pas la lettre A, et tout ça, c'était drôle quand même. Bon, on s'amusait bien. Et ensuite, bon, je suis rentré dans... Bon, j'ai pris des responsabilités dans la rédaction en chef de l'Express. À l'époque, dans la presse, il y avait moins d'inflation des titres. Maintenant, il n'y a plus que des rédacteurs en chef ou des directeurs de la rédaction ou des directeurs adjoints ou des rédacteurs en chef adjoints, etc. Bon, à l'époque, c'était un peu plus calme. Puis on a quitté l'Express en 71. Entre-temps, Jean-Jacques Saran-Schreiber était entré en politique. Et il avait dit que... Il a fait un éditorial pour expliquer qu'il s'était présenté en Lorraine d'abord, puis à Bordeaux contre Chaban-Delmas, et à l'occasion d'une élection partielle, parce que Chaban-Delmas n'étant plus Premier ministre, s'était représenté à Bordeaux. Et Jean-Jacques, avait écrit un éditorial en disant que l'information et l'engagement politique devaient être séparés complètement, ce avec quoi nous étions d'accord. Mais ce qui fut difficile à expliquer. Normalement, par exemple, ça c'est public, il ne devait plus écrire d'articles dans le journal. Cela dit, il n'a pas tenu longtemps. Il était propriétaire, en plus. Bon. Et il n'a pas tenu longtemps cette promesse. Alors on avait négocié avec lui qu'en haut de son, de ce qui pour lui était un éditorial, il y avait une phrase qui disait « Jean-Jacques Servan-Schreiber, député de Lorraine, puisqu'il voulait se faire député de Lorraine, exprime ici son sentiment personnel ». On avait négocié cette phrase avec lui. Et puis petit à petit, bon, c'est devenu impossible. On a démissionné tous, six ou sept en même temps. Oui, on était nombreux. Et on a démissionné sans savoir, sans imaginer la suite. On pensait que chacun reprendrait, trouverait du travail ailleurs. Bon, moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai été contacté, je peux le dire, par Jean Daniel, le Nouvel Observateur, par Gorini, qui dirigeait Europe 1 à l'époque, par Ouest France, par La Vie catholique, oui. J'ai eu 4 coups de téléphone le lendemain. C'est pas mal. Bon.
Mais non, c'est pas ce qui va se passer.
Je sais, de la modestie. Alors, bon.
Vous repartez dans une aventure vraiment nouvelle.
Là, quelques jours après, j'avais vu l'un ou l'autre des personnes qui m'avaient téléphoné entre-temps, d'ailleurs. Quelques jours après, Jean Farran, qui est un monsieur qui est très oublié maintenant, qui était une sorte d'adjoint et d'émissaire de Jean Prouveau. Jean Prouveau, grand personnage de la presse française, puisqu'il avait créé avant-guerre Paris Soir, il avait créé Marie-Claire, qui existe toujours, il avait créé Match. Il venait de créer Télé 7 jours, ce qui était intéressant aussi, et il sentait les choses comme ça. Et Farran nous dit, Monsieur Prouveau, parce qu'il disait Monsieur Prouveau, voudrait vous voir. Bon, on dit tiens, et on va le voir. Et c'était donc, on avait démissionné vers le 12 juin, je crois, et là, ça devait se situer vers le 20 et quelques juin. Et Prouveau nous dit, écoutez, voilà, moi je suis un vieux monsieur, j'ai fait tout ça, tout ce que je viens de vous dire. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est d'avoir créé le premier news magazine français. Parce que ce petit Jean-Jacques, je me souviens de cette phrase, ce petit Jean-Jacques m'est passé devant. Et je pense qu'il y a encore la place pour un news magazine. On y est, il y a le Nouvel Observateur quand même qui existe. Et puis il y a l'Express. Ça fait déjà 2, 3, ce sera difficile. Alors il dit, oui, mais le Nouvel Observateur n'est pas tout à fait un news magazine parce qu'il est beaucoup plus engagé politiquement, ce qui était vrai, surtout à l'époque. Et donc, il nous dit, si vous voulez, je vous engage tous les 6, on était 6 journalistes, là. Je vous engage tous les 6 à partir du 16 août, parce que je suis un vieux monsieur, je m'en vais dans ma maison de campagne jusqu'au 15 août. Donc, le 16 août, vous êtes engagé. On se regarde et on se dit, tiens, comme ça, on reste ensemble. C'est vrai, c'était sympathique comme hypothèse. Et le 16 août, Parent nous installe à côté de RTL, dont Prouveau était aussi propriétaire à l'époque, à côté de RTL, rue Bayard, là, au dernier étage d'un immeuble où il y avait une sorte d'appartement où un garçon et une fille préparaient interminablement, ça faisait un peu désert des tartares, et préparaient interminablement un journal qui devait s'appeler Capitole, pas Capital, Capitole. Et bon, on s'installe là. Prouveau vient nous voir le lendemain ou le surlendemain. Bon, on se dit bonjour, quoi, en gros. Bon. Et 15 jours après, il arrive avec ses barons, toute une série de personnages qui étaient ses adjoints. Mais c'était une scène comme, vous savez, Fernand Reynaud, n'importe, enfin, quelque humoriste aurait pu. C'était merci patron, asseyez-vous patron, vous êtes bien patron, cette chaise vous convient, vous préféreriez pas être là. Bon, et puis là-dessus, on bavarde un peu avec Prouveau sur nos projets, la façon dont on voyait le journal. Et il nous dit, pour des raisons comptables, j'en mets 3 sur RTL et 3 sur Paris Match. Nous, on se dit, il faut bien que quelqu'un nous paye, donc c'est Paris Match qui va en payer 3 et RTL qui va nous payer 3. Mais nous pensions continuer à préparer le futur journal. Et le lendemain matin, c'est sur moi que c'est tombé le premier. Jacques Chaput, qui était le directeur de l'information de RTL, me téléphone et me dit... Tu sais que je te paye ? Je dis, je sais ça depuis hier. Il dit, t'es rédacteur en chef, il faut que tu viennes. Et voilà, dans les 8 jours, les 3 de RTL se sont retrouvés à RTL et les 3 de Paris Match, donc Claude Imbert par exemple, se sont retrouvés à Paris Match. Alors là, bon, pourquoi je ne le sais pas encore. Là-dessus, j'imagine que c'est les barons qui se sont dit, cette équipe-là, ils prendront trop de place dans la structure, ou je ne sais pas quoi. Mais je ne le sais pas encore. En tout cas...
Est-ce qu'il avait renoncé au projet ?
On ne sait pas. On ne sait pas. Il avait renoncé au projet, en tout cas. Mais pourquoi ? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on s'est réunis et que l'on s'est dit, bon, on va quand même continuer à réfléchir à ce journal, quand même. Et on se réunissait dans un café qui était à mi-distance, en gros, de Paris Match et de RTL. Et là, on a commencé à chercher. Par l'intermédiaire du... Olivier Chevrillon, qui était l'ancien PDG de l'Express, qui avait démissionné en même temps que nous. Et alors, donc, on dit à Olivier Chevrillon, cherche donc de l'argent, puisqu'il était auparavant au Conseil d'État, il était en disponibilité au Conseil d'État pour 10 ans, il avait demandé sa réintégration, du coup. Et on a fini par trouver, parce que Simon Nora, qui était un des personnages influents à l'époque sur la place de Paris, avec une image comme ça, centre-gauche, en gros, était devenu directeur général de Hachette. Donc, on a fini par trouver Hachette, qui a fait affaire avec nous, je dis qui a fait affaire, parce qu'on a négocié un contrat, etc., l'indépendance, enfin tout ce que vous voulez. Et on a créé Le Point, voilà. Ce fut ainsi. Et après, bon, bah, ça a suivi. Les premières années, c'est formidable de créer un journal. C'est
vous en gardez une grande joie, en ce moment, un grand bonheur.
C'est un vrai bonheur, parce que vous inventez quelque chose, dans la formule des news magazines, bien sûr, dans ce cadre-là. Enfin, vous inventez quelque chose. Vous recrutez des gens. Ouais, j'ai recruté comme ça toute une équipe de jeunes journalistes. Vous en envoyez beaucoup d'abord, et puis vous recrutez quelques-uns. En gros, d'ailleurs, c'était pas mal, ils ont plutôt réussi tous. C'est vraiment un bonheur, et bon, les premières semaines, c'est un peu dur, parce que le premier numéro se vend très bien, le second un peu moins bien, le troisième encore un peu moins bien. Puis après, vous remontez la pente, bon. Mais au bout de 2 ans, ça y est, on avait remonté la pente, donc on était...
Au bout de 2 ans seulement.
Oui, oui, c'était pas mal.
Finalement.
Ouais.
Aujourd'hui, Le Point se porte très bien.
Se porte bien, oui, oui.
Quel regard vous avez sur un peu nostalgique
De cette époque-là, oui. Ah oui, 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 c'était le bonheur. Et puis, on avait le sentiment de jouir d'une liberté totale, mais on était raisonnable en même temps. Voilà, c'est-à-dire que cette liberté nous permettait, nous incitait pas à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on vérifiait les informations qu'on donnait, etc. On essayait d'être meilleur que les autres.
Une fierté également ?
Ah bah oui, puis une fierté de créer un journal. Écoutez, encore aujourd'hui, alors que c'est vieux, si je vais faire une conférence quelque part, les gens qui me présentent disent cofondateur du Point. Ah bah oui, j'aurais fait ça dans ma vie.
C'est pas rien.
C'est pas rien.
Votre plus grand moment journalistique, c'est celui-ci ?
Ah oui, oui, ça c'est sûr.
Sans conteste ?
Sans conteste, il n'y a pas de problème.
Votre plus grande rencontre, c'est Massu ?
Ah, la plus impressionnante, oui. Après, bon, il m'est arrivé de rencontrer des personnages politiques. Mais là, surtout, Massu, c'était dans un contexte très particulier. Puis dans ce bureau un peu étrange, oui, c'était la plus impressionnante, oui. Après, bon, j'ai vu des tas de gens. Je suis un spécialiste des questions religieuses, comme ça. Parce que à l'Express, quand j'y suis arrivé pour écrire, pour réécrire les articles, on m'a dit eh oui, mais tu viens de la Croix, toi, ben, tu vas t'occuper des problèmes de la religion. Et c'était dans les années 60, c'était après le Concile Vatican II, où il y avait beaucoup de transformations dans l'Église, où il se posait beaucoup de questions, etc. Et donc, j'ai toujours connu ces problèmes, j'ai toujours suivi ces problèmes. Bon, j'ai rarement vu le pape. Enfin, je l'ai vu comme tout le monde, mais pas... Je ne peux pas dire que j'ai interviewé le pape. Mais son secrétaire d'État, c'est-à-dire son premier ministre, je me souviens que j'ai passé une fois toute une après-midi avec lui. Et on passait en revue la situation de l'Église dans le monde entier. Puis à la fin, je lui ai dit, mais parlons des finances. C'était après l'affaire Marcinkus, ce qu'on appelle... Faire Marcinkus, vous savez, il y avait eu un scandale parce que la Banque du Vatican, l'Institut pour les œuvres de religion, qui était dirigé par un Monseigneur Marcinkus, qui était un enfant de Chicago, cette banque-là avait perdu beaucoup d'argent parce qu'elle était liée au scandale de la banque de Milan, Sant'Ambrosiano, dont le président était retrouvé pendu sous un pont de Londres. Oui, genre d'histoire, c'est quand même assez curieux. Et alors donc, je me souviens que j'ai passé donc cet après-midi avec, disons, le Premier ministre du Pape, secrétaire d'État, et je lui dis, mais alors, finance, là, le budget du Vatican. Et il me dit, en réalité, il y a plusieurs budgets, c'est vrai, c'est une pagaille noire. Il dit, le Pape lui-même ne doit pas s'y retrouver. Eh bien, ça, c'est, je crois, la vérité.
Vous avez écrit combien de livres ?
Je sais pas les gens qui comptent pour moi.
Une trentaine ?
Non, 40, je crois. Les gens qui comptent pour moi disent 40, mais en plus j'ai dû entraîner par mon expérience de rewriting à l'Express, j'ai fait le nègre pour un ou deux amis comme ça, une fois ou l'autre, pour les aider quoi. Bah, c'était bien, ça me plaisait.
Il y a un livre qui a énormément marché, qui a été adapté à la télévision, c'est Maria Vandamme.
Oui, c'est un roman, oui.
Qu'est-ce que ça fait quand on adapte un livre à la télévision, un de ses livres, on doit être très content.
C'est-à-dire qu'on ça entraîne des renoncements, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut un peu bricoler des choses. Il faut garder l'essentiel des personnages, mais il y a des scènes que vous ne pouvez pas faire. Et évidemment, les acteurs, même s'ils étaient bons et si on avait d'excellents rapports, ils ont leur propre interprétation du rôle. Ça, ce n'est pas des robots. En plus, même dans les dialogues, par exemple, quelquefois, Dieu sait que je faisais très attention dans les dialogues à les prononcer à voix haute pour me dire c'est prononçable, c'est dissible. Souvent, quand je lis des romans, je m'amuse parce que je vois des dialogues où je me dis « c'est pas possible de le dire, ça, c'est de l'écriture simple, mais c'est pas de la parole ». Et donc, même les dialogues, je prenais des précautions considérables pour ça. Et parfois, tel ou tel acteur dit « j'arrive pas à mettre ces mots dans ma bouche », ça c'est leur expression en tout cas. « J'arrive pas à mettre ces mots dans ma bouche », alors il fallait chercher avec eux une autre façon de dire la même chose. Mais c'est intéressant, puis en plus, comme ça a bien marché, bon, ça va.
Vous êtes également membre du Prix Interallié.
Ouais.
Est-ce que ça vous plaît de faire partie d'un jury littéraire ?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a des débats entre nous, des discussions entre nous sur les livres. Ou bien, comme c'est un jury surtout fait de journalistes, mais pas toujours très jeunes tous, on évoque entre nous des souvenirs, on parle de la profession, de l'évolution de la profession, etc. On se raconte des histoires anciennes. Bon, c'est plutôt une bande d'amis. En même temps, il y a des vrais soupçons sur les jurys et les prix, bien sûr.
Alors, est-ce que
on
vous recevez des...
On ne peut pas dire que ce soit faux, les soupçons, toujours. Hein, parce que c'est vrai que les éditeurs ont tendance à se souvenir de nous plutôt au moment où le prix va être décerné qu'en temps normal au fil de l'année, n'est-ce pas ? Bon, il y a cela. Il y a que...
Vous avez des pressions des éditeurs ?
De pression, non, mais vous êtes tout d'un coup quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 2 ans, vous invite à déjeuner, vous vous dites « c'est le prix interallié », je leur dis « moi, au téléphone ». Bon. Et quand même, on voit bien qu'ils doivent en exercer pas mal. Comme ça, sous forme d'envoi de livres, est-ce que sous forme financière, je ne peux pas dire, j'ai aucune information là-dessus. Non, ce qu'il y a de curieux, c'est quand on est réunis la dernière fois, donc pour le dernier jour, on donne le prix, c'est qu'on voit, nous sommes toujours 11, hein, 10 membres permanents, plus le lauréat de l'année précédente. Et parfois, ça se bloque, comme ça, vous avez 4, 4 et 3, et ça se bloque, ça bouge pas. Un tour, deux tours, trois tours. Et puis, on est au 7e tour, au 8e tour, on se regarde tous en disant, on se fait une pause pour dire, bon, alors, rediscutons, etc. Puis vous recommencez, vous êtes toujours 4-4-3. Et tout d'un coup, il y a un 5-4-2. Ça ne veut pas dire que le 5 va gagner, mais ça y est, le système est débloqué et ça part dans un sens ou dans un autre. La fois suivante, ça peut être le 5 est redevenu 4, mais c'est un autre qui est devenu 5 et qui devient 6. Alors à ce moment-là, il a gagné. Voilà.
C'est pas toujours évident d'arriver à...
C'est pas toujours évident, mais c'est très étrange de voir... Moi, j'ai connu une fois, on a fait 22 tours, hein. Mais quelqu'un qui s'obstine, je me souviens, sur une voix, Françoise Giroux m'avait dit ça parce qu'elle était dans un prix qui n'existe plus au moment où nous étions à l'Express. Elle m'a dit, vous savez, dans un prix, dans un jury, il faut s'accrocher à un livre et puis même si on est tout seul, ça peut marcher parfois. Et quelqu'un qui s'obstine, moi je me souviens d'un prix qu'on a donné et qui avait une voix, le livre, pendant plusieurs tours, il a fini par l'avoir. Hein.
Comme quoi
parce
ça peut être possible.
Parce que quelqu'un s'est obstiné.
Voilà.
Poussé par la passion, par les mots de Picasso, je suis devenu photographe. Ainsi s'exprime Lucien Clergue de l'Académie des Beaux-Arts. Né à Arles en 1934, Lucien Clergue a marqué l'histoire de la photographie du XXe siècle. À ses débuts, il a cherché à travers la photo des correspondances avec l'univers des peintres et des poètes qu'il aimait et rencontrait. Dans ce contexte, il s'est lié d'amitié avec Picasso, une rencontre déterminante. Lucien Clergue célèbre Picasso le Maestro, une émission Carrefour des Arts à télécharger librement sur Canal Académie.
Parlons un instant des nouveaux médias. Vous êtes de la génération papier. Aujourd'hui, on est sur Internet. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes, Canal Académie, une radio sur Internet. Quel regard portez-vous sur ce nouveau média ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'il a sa place dans le paysage des médias ?
Je crois que c'est plus qu'un nouveau média. C'est aussi important que la révolution industrielle.
C'est très fort de dire ça.
Ah oui, je crois que c'est vraiment un changement de la société parce que... Bon, que ça se... porte d'abord sur les médias, bien sûr, parce que bon, ils sont l'expression de cette société. Mais ça influe sur les loisirs des gens, sur leur emploi du temps. Ça influe sur leurs problèmes financiers, parce que ça a l'air de rien. On paye des forfaits à 29,90 ou 39,90 ou je ne sais quoi, etc. Mais finalement, il y a des petits suppléments. Donc ça influe sur le budget des gens, sur leur emploi du temps, sur aussi le fait que le rapport enseignant-enseigné, qui est très important. Dans le temps, c'était le journal qui était l'enseignant. Le journal l'a dit. Voilà. Les gens disaient « Ah si, c'est vrai, je l'ai vu, c'était dans le journal ». C'était ça, l'enseignant, c'était le journal.
Une référence.
Après, quand il y a eu les radios qui sont arrivées, c'est devenu un peu plus compliqué. Mais enfin, quand même, bon, le journal gardait ça. Et le rapport enseignant-enseigné ne changeait pas. Quand il y a eu la télévision, surtout en France, il n'y avait qu'une chaîne pendant de très nombreuses années, et la famille tout entière, le soir, se plaçait devant la télévision, où il n'y avait qu'un programme, puisqu'il n'y avait qu'une chaîne. Bon. Et bon, le rapport enseignant-enseigné, cette fois, c'était la télévision, qui était l'enseignant, qui était le média dominant, donc l'enseignant. Maintenant, le rapport enseignant-enseigné a changé beaucoup. D'abord parce qu'il y a de nombreuses chaînes de télévision et de nombreuses radios, que dans pas mal de familles, il y a des postes de télévision dans les chambres des gamins. Et les gamins les utilisent beaucoup, ça compte beaucoup dans leur emploi du temps. Et maintenant, avec Internet, c'est tout journaliste. N'importe qui peut se mettre à écrire, à raconter des choses, etc. Et avec une qualité, il y en a de bon, il y a de la créativité hein, sur Internet. On voit apparaître de temps en temps des trucs que reprennent les télévisions. D'ailleurs, c'est amusant, ils reprennent des passages d'Internet. Mais il y a aussi une place qui est faite à la rumeur, qui est considérable et insupportable. On peut lancer n'importe quelle rumeur par Internet. Regardez ce qui se passe en Chine. En Chine, non seulement ils ont des problèmes avec Google, le moteur de recherche, le pouvoir comme ça, des problèmes avec Google, mais en même temps, il a à son service toute une série de blogueurs, 150 ou 200, je crois, qui sont anonymes, qui ne se présentent pas comme des représentants du pouvoir, mais qui répandent des informations qui servent le pouvoir. Ça change la vie, hein. Et ça change pas seulement la vie sur le plan de l'information. À nouveau, quand j'ai dit c'est aussi important que la révolution industrielle, c'est que ça change la gestion des entreprises, ça change tout. Gutenberg, à côté de ça, c'est rien. Hein.
On termine sur quelques questions plus personnelles. Jacques Duquesne, c'est quoi être un bon journaliste, en deux mots ?
C'est être modeste, se dire que c'est l'information qui prime plutôt que soi. C'est difficile, ça.
Quel est le pire moment de votre vie ?
Je crois la guerre d'Algérie.
Et le meilleur ?
La fin.
Pensez-vous que toute vérité est bonne à dire ?
Non, pas toujours. La transparence absolue. Vous savez, par exemple, prenez le traité de Rome qui a mis naissance à l'Europe. Là. Il avait, si ces gens s'étaient réunis pour aboutir à ce traité, au vu et au su de tout le monde, il y aurait eu des manifestations, que sais-je, des pressions diverses, des lobbies qui seraient exercés. En réalité, ils étaient dans une île, les représentants des 6 pays qui ont fait le traité de Rome. Et je vois bien que quand le Vatican désigne le principal responsable de l'Église, il s'enferme à double tour, ses cardinaux, là, pour le désigner. Donc, je pense que toute vérité, les États, la responsabilité d'un État fait qu'il y a des choses qu'on doit cacher, parfois.
Quel est le livre que vous avez préféré écrire, s'il y en a un ?
Oui, il y en a un. Bon, Maria Vandamme, bien sûr, parce que c'est un énorme succès. Mais on a toujours une préférence pour ceux qui ont moins réussi. C'est comme, j'imagine, une famille, des parents comme ça, qui dit à un enfant qui est un peu handicapé, là, ou bien on avait mis des espérances en lui, puis bon, ça n'a pas bien marché. Et, par exemple, j'avais écrit un roman qui s'appelait Laura C, avec un point. Je ne peux pas prendre le temps de le raconter ici. Mais à mon avis, c'est un de mes meilleurs romans, sinon le meilleur. Et bon, ça a fonctionné à moitié. Alors on est déçu là. On est déçu, mais bon, on en écrit un autre. On se dit.
Vous en écrivez au moins un chaque année ?
Livre, oui, je crois. Maintenant surtout, oui. Auparavant, moins. Mais maintenant, je suis quand même un peu retraité de la presse, donc.
Et vous aimez beaucoup les portraits de religieuses ?
Oui, là, je sors un livre ces jours-ci, là, qui est une religieuse qui s'appelle Sœur Anne-Marie. C'est une interview. Hein. En réalité, donc, c'est une religieuse qui, à 45 ans, a entrepris des études de médecine pour aller soigner les Touaregs au Mali. Et il faut voir ce personnage qui a maintenant 75 ans, cette sœur Anne-Marie, elle se démène, elle est en grand boubou, bleu et violet. Et puis, elle part en half-track, en 4x4. Bon, elle est quand même pas militaire. Elle part en 4x4 comme ça, à travers les sables, parce qu'elle a créé des petits dispensaires où il y a une personne, quoi. Et alors là, quand elle arrive à un endroit, que les Touaregs amènent leur malade, mais s'il y a un malade, toute la famille vient, presque toute la tribu, parce qu'il y a beaucoup de tribus, et ils montent leur tente, là, ils amènent leurs bêtes, qui sont des chèvres, le plus souvent, etc. Et elle soigne ces gens et fait... face à la plus extrême pauvreté, au malheur, aux filles qui sont mariées à 10 ans et dès qu'elles sont pubères, elles font un enfant par an. Donc elle leur distribue la pilule, quoi que dise le Vatican. Elle a aussi des problèmes avec les préservatifs, parce que c'est un peu difficile pour une religieuse. Les distribuer à la rigueur, mais on montrait comment ça fait. Comment on les utilise, c'est un peu compliqué. Bon. Mais c'est fou comme ça, des personnages, il en existe d'autres, j'en suis sûr, hein, partout. Il y a des gens qui, dans le monde, font avancer le monde. C'est pas toujours ceux qu'on suppose et qui sont les plus connus. Mais c'est pour ça que ceux-là méritent parfois d'être sortis de l'ombre. Et même s'ils sont pas sortis de l'ombre, il faut penser que si le monde avance, bah, c'est grâce à des gens de ce genre.
Est-ce que vous reconnaissez que les médias ont tendance à mettre la lumière que sur les gens médiatiques, les personnalités médiatiques?
Ah oui, là, mais c'est surtout un mal de notre époque, n'est-ce pas, la pipolisation à laquelle cèdent pratiquement tous les médias maintenant et à laquelle cèdent trop les hommes politiques. Moi, quand je vois que, bah, pour parler clair, il y avait un monsieur Carl Zéro qui faisait une émission à Canal+, où il tutoyait tous les personnages politiques qu'il interviewait. Que ceux-ci se prêtent au jeu parce qu'ils passent à la télé, non mais quoi? Qu'est-ce que c'est de passer à la télé? Non, mais soyons raisonnables, il se prêtait au jeu, il tutoyait Carl Zéro, c'est tutoyé. Bon, enfin, on est chef d'un grand parti politique ou ministre ou je ne sais quoi. La dignité de l'État, je suis encore d'une génération qui croit qu'elle est nécessaire. Donc les dirigeants de l'État doivent aussi.
Merci beaucoup, Jacques Duquesne, d'être venu dans notre émission Parcours pour nous parler de vous et de toutes les grandes étapes, les grandes rencontres et les grands passages de votre vie. Je rappelle que vous avez été grand reporter pour La Croix en Algérie pendant les années de conflit, mais également cofondateur du Point. Vous avez été membre du conseil de surveillance de l'Express en 97. Enfin, beaucoup de grandes activités. Et que vous avez écrit nombre de livres sur la religion notamment, et que vous êtes membre du prix Interallié. Merci encore d'être venu dans cette émission. On vous retrouve sur canalacademy.com.